paysage intérieur brut.
De Marie Dilasser.
Enregistré à l'ENSAT en novembre 2017.
Avec les élèves comédiens et concepteurs son de la 77e promotion.
Je m'appelle Bernadette. Je suis une petite femme. Presque un atome. Presque un atome, mais pas perdu dans l'univers. Je ne m'envole pas et ne me laisse pas prendre par le vent. Je suis définitivement fixée au sol et au présent. On ne me prendra jamais à rêvasser. Je suis petite et incessante. J'ai été maigre et j'ai été énorme. Maintenant, je fais attention à ma ligne. À 40 ans, on ne peut pas manger et boire pareil qu'à 20 ou 30. Et quand Joël me dit pour rire que j'ai grossi, je refuse le verre de vin qu'on me propose et je ne prends pas de dessert. Je suis une femme à cheval sur les chiffres et le regard de Joël compte beaucoup. Seule ma taille reste constante. J'ai 5 kilos à perdre et ça sera parfait. Il faudra alors que plus rien ne bouge. Le silence. Je veux du silence. Que tout en moi reste fixe. Être un caillou, poli par le ressac et circuler entre vos mains pour que vous puissiez me tâter sur toutes les faces et que chacune d'entre elles vous résiste comme quelque chose de sûr. Mais ça se dérobe. Tout en moi se dérobe. J'épluche des patates pour canaliser mon énergie, mon excitation, mon angoisse, mon inquiétante démesure. Si je n'épluche pas ces patates, je risque gros. Je risque de disparaître. De me transformer. Ça peut être très dangereux. Pour tout le monde. Je ne peux plus être seule. Et je ne peux pas sortir. Je suis encastrée dans ma cuisine. Façon de parler, bien sûr. Je suis fondue dedans. Ainsi que dans mes proches. Les pauvres. Alors je vous ai invités. C'est la fin d'après-midi. Une fin d'après-midi très ensoleillée. C'est l'hiver. L'été a été pourri, mais l'hiver est très ensoleillé. Vous êtes quelque part dans le centre-Bretagne. N'importe où. Les lieux où se trouver dans le centre-Bretagne sont infinis. Vous êtes dans l'infini du centre-Bretagne et vous vous apprêtez à vous rendre chez nous. Pour venir jusque chez nous, le plus simple, c'est de prendre une caisse. Vous montez dans la caisse qui se trouve là, sous votre main, avec l'humeur qui s'est glissée là, sous votre peau. Et vous chantez dans la caisse. Un peu faux, mais vous chantez votre humeur tout le long de la route bordée d'arbres, de fils électriques et de champs. En chantant, zigzagant, votre humeur se remplit doucement d'arbres, vous donnant la preuve que malgré les destructions de talus et les coupes rases, il y a encore bien plus d'arbres que de gens. Vous trouvez que c'est tant mieux. Sous votre peau, les arbres oscillent joyeusement. Au loin, les évaporations de flotte au-dessus des prairies, dans les arbres et sur les plaines, vous mettent dans une telle excitation que les arbres sous votre peau s'éprennent d'une danse violente. Vous sentez leurs racines s'agripper à vos nerfs. Vous ouvrez machinalement la vitre afin de calmer la transe. L'air est frais. Vos poumons se remplissent à leur guise.
Vous aimeriez vous évaporer à votre tour et flotter au-dessus des plaines, des taillis, des troupeaux. Sur votre droite, la quenouille à madame aux feuillus généreux et aux immenses sapins s'ouvre impudiquement sur le lac de Guerlédan. Votre humeur, votre regard et vos mains se font happer par ce monstre électrique avec des arbres et des ruines sous la nappe d'eau. plouf. Par la vitre de votre caisse, on vous voit vous évaporer de la tête aux pieds dans ce paysage immense et complexe. Votre corps s'éparpille, puis se cristallise au-dessus des plaines, des taillis, des troupeaux. Votre caisse va seule, épousant magnifiquement chaque virage. Votre chanson un peu gauche s'est enfouie dans le lac de Guerlédan, rejoignant l'épaisseur du siècle passé. Elle côtoie les derniers habitants de la plaine, bientôt recouverte par quelques milliers de tonnes d'eau. C'est le départ. Avec les pierres des maisons dans les charrettes, la boue bleue et grise sous les protections des sabots, les parcelles encore vertes tachées de fleurs, les souvenirs pleins les fichus et les casquettes, l'abandon dans les carrières de schiste prêtes à cracher leur jus dans cette eau qui éclaire maintenant quelques maisons et lampadaires, fait tourner quelques machines et attire toutes sortes de promeneurs et de vacanciers. Alors que vous n'êtes plus qu'une bouffée d'air éparpillée dans la fin du jour, une odeur tenace vous rattrape, à la manière d'un randonneur qui cherche son chemin. Vos mains reprennent à nouveau contact avec le volant. Dans votre bouche, un goût de vase, d'arbre, de lichen, d'eau et de roche. Votre humeur s'est alourdie de fientes et de lisiers. Sous votre peau, les arbres qui oscillaient joyeusement au vent frais se font mollement emporter par une mélasse puante qui vous colle au siège. Vous refermez la vitre en pensant que cette séparation doit parfois être la juste distance entre vous et ce paysage agroalimentaire qui défile maintenant de chaque côté de la route. De rage, vous poussez deux camions de poulet et un camion de porc contre les barrières de la RN-164 parce que, punaise, la production intensive, ça empêche de chanter gaiement. Écorché par votre excès d'humeur quasi meurtrière, vous quittez la RN-164 pour la D95. Vous avez cessé de chanter. Votre peau s'est décollée de votre chair. Vous êtes à vif. Vous traversez un bourg avec ses pâtés de maisons et son église au milieu. Vous empruntez une petite route aux deux virages qui n'existent pas sur la carte. Vous êtes arrivé. Pour vous garer chez nous, vous faites au plus simple, c'est-à-dire que vous longez la maison. En longeant la maison, vous apercevez la petite silhouette ronde de ma mère derrière le rideau brodé d'une fenêtre. Mais vous n'y faites pas plus attention que ça. Vous avez tort. Cette petite silhouette ronde derrière le rideau brodé provoque de vrais éboulements intérieurs. Depuis sa fenêtre, ma mère vous voit passer, écorchée vif, au volant de votre caisse. Elle voit aussi votre peau qui s'est installée sur la banquette arrière. Vous et votre peau longez le terrain de jeu des enfants. Le laboratoire de transformation, la stabule à vaches, le hangar. Vous et votre peau faites demi-tour au bout du hangar. Vous longez le bois, le poulailler. C'est facile, tout est bitumé. Vous et votre peau vous garez devant le potager en face de la maison. Vous n'avez pas écrasé Rumex qui vous a escorté, vous et votre peau, de la maison à la maison. Rumex est un grand chien jaune et noir qui aime tout le monde sauf le boucher. J'aime Rumex. Admettons que vous et votre peau ne l'ayez pas écrasé. Admettons qu'il tourne autour de votre caisse. Admettez que vous n'osez pas descendre. Vous restez sur votre siège, vous revêtir de votre peau.
N'aboie pas souvent, juste. Des fois, quand un bois, c'est... qui a vraiment pas le choix. J'ai été éduqué. C'est Joël qui m'a appris. À rester dans la retenue, quoi ? Qu'il se passe, on a foutu des trempes. Je suis plutôt doué maintenant, ne... Vous boufferez pas. Ce qui m'intéresse le plus... l'odeur. Entre vos... La nature m'a fait à cette taille. Et l'en remercie chaque jour. Me rend si joyeux, cette odeur. Tellement vive, tel un gibier pourchassé par sa propre mort. Cette odeur de devenir cadavre qui flotte entre vos jambes
me procure tant de joie, à un moment j'ai bien cru que c'était l'autre qui arrivait. S'il y a quelqu'un qui me fait débloquer, bien l'autre. Vient tous les 15 jours, sans la barbaque, met du sang sur son tablier blanc, à des machines, des couteaux, une haleine de tripaille, d'os et de gras. Me rend fou. Le sang, venir de loin, avant même qu'il arrive, mes dents claquent. Mais ne me démonte pas. Je fais des tours en l'attendant. Ça défoule. Quand le boucher arrive...
Rumex, au pied !
J'entends bien que Joël appelle. Mais continue à courir après le camion. De machines, de couteaux, de viande, d'os et de gras. À bois, à bois, à bois. Si je n'écoutais que moi, n'en ferais qu'une bouchée du boucher. Me balance des bouts de gras pour m'amadouer. Moi, c'est sa main que je veux. Bouffe la main de celui qui te donne à bouffer. Dévore la main de celui qui tente de t'aveugler. Sois sans pitié avec celui qui t'offre des bouts de gras pour mieux t'éloigner de sa route.
Ici, celle que je préfère, c'est Bernadette. Lui fait des joies, elle me fait des papouilles. Debout, je suis aussi grand qu'elle. Je pose mes pattes sur ses épaules, elle m'attrape le museau avec ses petites mains en disant des mots doux pour éviter ma truffe et ma langue. Dans ses yeux et sa bouche, la ferait bien rentrer dans tous les trous de sa tête, ma langue, pour bien vérifier qu'elle est sans fin. Bernadette est sans fin. Je le pressens du bout de ma langue. Je pourrais la lécher sans fin, Bernadette. Mais elle m'attrape le museau avec ses mains, alors je m'en vais voir. Paul et Cléo courent partout. Avec leurs mollets tout frais, j'aime courir avec eux, leurs ballons de foot et leurs pneus. Quelqu'un d'autre arrive.
Je vais l'accueillir. J'aime accueillir. J'aime ça.
Alors, vraiment, à bois, à bois, à bois.
Chien, laisse-les tranquilles. C'est moi qui parle et rigole du torse, pas toi. C'est moi, Joël, l'homme de la maison. C'est moi qui accueille. À l'extérieur, mes mots et mes rires se déploient dans le paysage. À l'intérieur, mes mots et mes rires se cognent contre les murs. C'est dehors que je suis le mieux. J'ai fait un tas de choses avant d'être paysan et je ne regrette rien. C'est en m'installant dans la ferme familiale que j'ai rencontré Bernadette. Je l'ai portée sur mes épaules, à travers les champs et dans ma philosophie. Faut pas croire qu'un paysan, c'est juste quelqu'un qui tape dans la caisse de l'État et sur le cul des vaches. Si vous saviez le nombre d'heures que je passe dans mon bureau le soir à travailler la génétique bovine, les plantes nocives et la vente directe, vous tomberiez à la renverse. Je suis grand, c'est plus facile pour compter les vaches, des charolaises, vous savez, les grosses blanches. J'en ai 60. Il y a 60 vaches autour de chez nous, tout aussi blanches les unes que les autres. Comme Bernadette le dit souvent,
tellement blanches qu'on dirait des fantômes. Quand on les regarde brouter, on ne dirait pas que ça saigne à l'intérieur.
Celles que je vends aux marchands, je ne sais pas, mais je vous assure que celles que j'en sache tous les 15 jours dans mon laboratoire de transformation ne sont pas des fantômes. Elles sont pleines de viande, d'os, d'organes et de nerfs, avec tout ce qu'il faut de gras et de sang pour le parfum et la tendreté. Ce que vous voyez là, en face de vous, ce ne sont pas des concepts. C'est la nature, avec toute sa violence. Approchez-vous de cette vache et de son veau, et je vous assure qu'elle vous donnera un de ces coups de tête, les amis, à vous exploser la rate. Il y en a plein qui ne s'en sont jamais remis, et beaucoup y sont restés. Voici notre maison. Elle est accrochée à la terre, et autour de nous, des champs de céréales, des champs de vaches et de maïs, jamais la même chose dans un champ d'une année sur l'autre. Ça tourne, Le paysage tourne autour de nous, et dans notre maison accrochée à la terre, nous sommes 5 à tourner les uns autour des autres, jusqu'à ce que nous soyons tous assis ou allongés. De temps en temps, des amis viennent tourner avec nous, ou le boucher, le facteur, ou l'entrepreneur. Ça tourne. Il faut tout le temps que ça tourne. Nous allons aussi tourner chez les autres, nous asseoir à leur table, puis nous revenons nous allonger, chez nous. Voilà le veto. Vous pouvez monter par le garage. Bernadette est en haut, elle vous attend dans la cuisine. J'ai un vélage difficile. Je vous rejoins tout à l'heure.
Quand vous êtes arrivés chez nous, ce n'est pas vraiment la petite silhouette ronde de ma mère derrière le rideau brodé de la fenêtre qui vous a accueilli. Ce n'est pas vraiment Rumex non plus. Le plus souvent, c'est Joël qui accueille. Il vous a dit de monter par le garage, alors vous êtes monté par le garage. Joël est grand et fort. Ce n'est pas facile de le contredire. Comme vous n'avez pas trouvé l'interrupteur, vous êtes monté dans le noir. Pendant que vous montiez, Rumex vous a bousculé à plusieurs reprises. Vous avez refermé la porte sur sa truffe avec un certain plaisir, admettez-le. Vous formez maintenant une petite assemblée dans le couloir sombre en L de notre maison. En face de vous, une porte vitrée menant à la cuisine, et à votre gauche, une double porte vitrée menant au salon. Vous ne ressentez pas encore le besoin de manifester votre présence en toquant aux vitres moulées de petits carreaux jaunes pisse matinale, seule source de lumière. Je suis de l'autre côté de la porte vitrée menant à la cuisine. Je suis paralysée. Votre présence me paralyse. Je suis un caillou posé sur une chaise. Je ne suis capable d'aucun mouvement. Je ne suis capable de rien, sauf de regarder le temps s'effondrer sur les meubles de la cuisine et contre la baie vitrée. Je vous laisse en plan. À vous échanger quelques regards dans la pénombre jaune pisse, vous vous rendez compte qu'il y a de fortes chances pour que vous vous soyez déjà tous croisés, bousculés, effleurés ou télescopés dans une manifestation, un bureau de tabac, une terrasse de bistrot, un bus, une banque, une forêt, une épicerie ou je ne sais quoi d'autre encore. Dans le centre Bretagne, le nombre de personnes est bien plus limité que le nombre de lieux. Quelles qu'en soient les raisons, vous voilà, vous et pas les autres, à remplir le couloir sombre en L de tous les abîmes que sont vos vies. À respirer ce mélange abîmé, la petite masse hétéroclite que vous composez se délie peu à peu. Vos corps s'irisent et vos gestes sont bientôt des peuplades qui se déploient dans le couloir sombre en L de notre maison. Une fédération de baisers échappés de vos lèvres claque dans l'air au contact des joues familières. Des myriades de pensées s'envolent de vos corps et tanguent dans l'air à la manière des papillons, avant de se poser sur le lustre, une épaule, un meuble, un nez ou un mur. Quatre de vos fesses se prélassent sur la largeur du meuble à chaussures. Elles se tiennent tranquillement la jambe, toutes aussi fières les unes que les autres d'avoir trouvé cet emplacement de rêve, puisque le petit canapé en velours beige est déjà occupé par 6 de leurs congénères, un peu ratatiné par 3 torses non moins fiers.
Un troupeau de regards égarés se lance à la recherche d'une issue dans la partie la plus obscure du couloir. Des tribus de doigts se promènent et pianotent sur la tapisserie blanc cassé à la recherche d'un passage secret. Les flux et reflux de vos respirations épaississent l'air à dévisser les têtes de leur socle. Un cercle de dos en compote et de pelotes de nerfs complotent contre l'absurdité de cette situation. Un clan de bras crie son désœuvrement. Il est bientôt rejoint par un clan de pieds. Une colonie de questions décolle d'une douzaine de têtes et se cogne au plafond.
Combien de temps va-t-elle nous maintenir dans ce couloir ?
Pourquoi est-on venu ?
Qu'attend-elle de nous ? Pourquoi est-on venu ?
Vous, propriétaires de toutes ces peuplades, êtes impuissants face à ce déploiement et aimeriez de toutes vos forces les laisser aller à leur guise, jusqu'à la transformation totale du couloir sombre en L de notre maison, jusqu'au chaos. Seulement, vos consciences inquiètes les rattrapent avant qu'elles ne leur échappent complètement, déclenchent des gênes trop lourdes, des guerres trop violentes, des amours trop fous ou des dislocations trop grandes. Vos consciences inquiètes ne sont pas encore tout à fait prêtes pour le chaos. Vos baisers ne sont pas encore prêts à fleurir sur toutes les joues, quelles qu'elles soient. Vos pensées ne sont pas encore assez puissantes pour traverser les murs, ni assez fines pour passer dans les interstices des portes fermées. Vos fesses se retiennent encore de rire. Vos nez sont des bourgeons qui ne s'épanouiront pas avant la saison prochaine. Vos doigts ne sont pas encore prêts à tripoter de mille manières. Le rythme de vos respirations n'atteindra pas celui de l'orgasme d'ici 3 jours. Ce n'est pas dans ce couloir sombre en elle que le complot contre votre enfermement parviendra à son terme. Vos bras et vos pieds n'atteindront pas encore la transe et vos questionnements ne perceront pas plus le plafond. Cependant, il y a dans vos gestes une sorte de volonté qui vous échappe et qui semble aller tout droit vers le chaos. C'est un spectacle éblouissant.
Et puis ce gris, dans le gris du ciel, qui tend de toutes ses forces vers le bleu ou le mauve, il voudrait laisser le bleu ou le mauve décider à sa place.
Nos enfants et les enfants de nos enfants.
Maman. On a de la visite.
Viens dire bonsoir. Maman.
Maman.
Je suis coincée. Je ne peux pas leur ouvrir la porte. Aide-moi, s'il te plaît. Maman ?
Maman ?
Jamais nous quitterons
nos petits bourgades.
Maman ?
Maman ?
Maman ?
Maman ?
Depuis que je suis sans emploi, je suis souvent de garde. Je fais partie de la première équipe qu'on appelle. Depuis que je suis sans emploi, je me sens vraiment utile parmi vous. Ça sonne quand ça sonne, et quand ça sonne, c'est qu'il y a des personnes en danger de mort, d'autres qui ont des angoisses devant leurs bras qui gonflent, d'autres encore qui ont le souffle coupé par une mort tant attendue qui ne vient pas. Quelques foudroyés, quelques inondés, un bâtiment agricole ou une lande enflammée, des truies tombées dans une fosse à purin. On ne sait pas du tout quand ça se met à sonner. Ça sonne quand ça sonne, et quand ça sonne, il faut aller à la caserne. J'ai mis des patates à cuire. Joël ramènera du bœuf de son laboratoire de transformation. Vous aimez le bœuf ? Du charolais. Vous savez, les gros blancs.
Tellement blancs qu'on dirait des fantômes.
Quand je les regarde brouter depuis la baie vitrée de la cuisine, j'ai du mal à croire que ça saigne à l'intérieur. Je vous laisse la maison. Ne faites pas de bêtises, je compte sur vous.
J'ai vu que Bernadette était partie en intervention. Alors je suis venu. Je vais me laver les mains. J'ai dû aider le veto à faire une césarienne. Ça arrive souvent chez les charolaises. Elles font souvent des gros veaux qu'elles ont du mal à sortir. Celui-ci est particulièrement gros. Il a presque la taille d'un broutard export. À la pesée, il faisait déjà ses 93 kilos. Ce n'est pas du tout conforme. Je n'ai pas eu le temps de l'observer, mais je crois que la forme de sa tête et celle de son cul ne sont pas du tout conformes non plus. Est-ce un exploit ? Est-ce un trouble ? La génétique est bourrée de bien des mystères. Bon, le principal, c'est qu'il tète. La première chose que je regarde, c'est ça. S'il arrive à téter, et si sa mère le laisse téter. La forme vient après. Je le verrai mieux demain. Il faisait sombre et je ne voulais pas vous laisser seul. Quand j'ai vu Bernadette s'en aller, je suis venu dès que j'ai pu. Je ne supporte pas de laisser les invités en plan. Bernadette a tendance à vous laisser en plan comme elle se laisse elle-même en plan. Vous avez remarqué le déclic qu'il y a eu en elle lorsque l'alarme s'est mise à sonner ? J'ai remarqué ça. Dès que l'alarme se met à sonner, clic, Bernadette se rappelle à elle-même. Dès qu'il arrive quelque chose à quelqu'un, clic, Bernadette redevient la Bernadette que j'ai portée sur mes épaules à travers les champs et dans ma philosophie. Il n'y a pas d'autre déclencheur. Quand on veut la sortir de sa torpeur,
Paul, Cléo, ma belle-mère et moi devons simuler des malaises, des écrasements, des chutes, des fugues, des coupures. C'est tuant à la fin. Depuis qu'elle est rentrée de l'hôpital psychiatrique, Bernadette passe tous ses après-midi dans la cuisine à se métamorphoser. Un jour, elle dit qu'elle est une vaste plaine désertique dont le ciel est traversé d'oiseaux qui trébuchent en plein vol. Au sol, ce ne sont plus que des boules de plumes tièdes immédiatement recouvertes et dévorées par d'inimaginables variétés d'insectes. Un autre jour, elle est un monument aux morts avec l'inscription de tous les morts qu'il y a eu autour d'elle depuis qu'elle vit. Quand vient le soir, quand les lumières sont allumées dans la maison, elle voit M. Rotron, son ancien patron. Elle le voit dans le salon, à travers les petits carreaux jaune pisse matinal. Il porte un costume blanc. Il a les cheveux ébouriffés sur un côté de la tête. Et il soupire. Il est assis sur une chaise, mais elle ne voit pas la chaise, tellement il est énorme. Il soupire, il écoute et il rumine. Elle ne sait pas ce qu'il écoute ni ce qu'il rumine. C'est un gros bœuf charolais assis sur une chaise qui soupire, écoute et qui rumine elle ne sait quoi, dans son costume blanc, avec ses cheveux ébouriffés sur un côté de la tête. Il peut rester un très long moment sur la chaise et puis s'évaporer tout d'un coup, elle ne sait où. Souvent, elle dit
« Je voudrais l'accrocher au lustre. Je voudrais l'accrocher au lustre comme une carcasse et le débiter de la tête aux pieds avec un économe. »
Ça me perturbe. Sans compter que sa mère commence à entrer chez nous sans prévenir et à errer dans les couloirs à la recherche d'une bouteille d'alcool ou d'une petite cuillère. Il va falloir que ça se termine bientôt. Je ne supporterai pas cette situation très longtemps. J'espère une chose, c'est que ça ne se termine pas dans les faits divers.
C'est pas vrai, ça!
Vous ne pouvez pas laisser les anciens respirer un peu? Vous ne pouvez pas les laisser se promener tranquillement? On ne peut plus se promener sur les routes la nuit. Avant, on pouvait. Avant, je pouvais me promener sur les routes la nuit sans qu'un trou du cul d'automobiliste ne signale automatiquement ma présence à la caserne la plus proche. Dis-leur, Bernadette, que je suis quelqu'un qui a pris cette habitude-là très tôt, de sortir de la maison la nuit et de marcher sur les routes. Sinon, je sens le renfermer. Je ne me plais pas dans ta petite dépendance, mais alors pas du tout. Et la possibilité de refroidir à toute vitesse sur le bord d'une de ces petites routes me soulage. Tant pis pour l'automobiliste qui me pulvérise. Je ne sais pas qui est le trou du cul qui a appelé la caserne en croyant faire une bonne action. Et à l'occasion, tu lui diras à Bernadette qu'il a gâché ton quotidien, le mien et celui de ta famille. Tu lui diras que je suis plus petite que toi, mais que je t'encombre autant qu'un fauteuil en rotin au milieu d'un couloir. Que je ne peux plus te venir en aide. Qu'il m'arrive d'être dans ta maison sans savoir que j'y suis. Que je m'y perds. Que je pisse sur ta moquette. Que je ne comprends rien à rien, que je bois, que je buvais, que je te vole encore une bouteille de temps en temps. De toute façon, mesdames et messieurs, l'alcool dans mes veines a fait son travail. J'ai laissé une partie de moi dans le fond de milliers de bouteilles. Et quand il y a des bouteilles vides qui s'entassent, on les jette toutes, même et surtout celles qui contiennent le débordement de sensibilité dont on voulait se débarrasser, aux ordures. Et on recommence à chaque débordement. Ne reste plus que le goût de l'alcool et le manque. Je bois moins depuis que je vis chez eux. C'était la condition. Ça ne me plaît pas de vivre chez eux. Je ne me plais pas dans leur petite dépendance. Je passe mon temps à regarder à travers le rideau brodé de la fenêtre. Quand j'en ai par-dessus les chaussons, je marche 15 km pour revoir la façade de mon ancienne maison et celle de mon ancienne voisine, avec toujours ce rideau imprimé dans les yeux. Toutes les deux attablées, nous repiquons notre passé à coups de suze. Quand la bouteille est vide, et le passé bien repiqué, nous allons à la mairie, un coup dans le nez, téléphoner à Bernadette pour qu'elle vienne me chercher. Joël n'a pas le temps de s'occuper de moi. Devant les enfants, il m'appelle Spider Mémé et il se marre. C'est un grand con. Mes oies me manquent. Tout ce que je n'ai plus me manque. Tout a un goût amer. Nous étions 6. Ne reste plus que nous deux. Les deux femmes. Nous marchons, toi et moi, sur la même petite route. Une petite route perdue, avec les cendres de tes frères dans les nids de poules. On ne peut plus marcher côte à côte. On se marche sans cesse l'une sur l'autre. Et si on continue, on va se fondre l'une dans l'autre. Adieu, Bernadette. Laisse-moi continuer seule. Dis-leur à ces mesdames et messieurs, à quel point la possibilité de refroidir à toute vitesse sur le bord d'une de ces petites routes peut me soulager.
Merde alors, c'est pas ma soirée. Je vous accueille comme un pied, j'arrache ma mère à sa route pour la énième fois, et pour la énième fois je la colle dans sa petite dépendance. Comme on enferme une araignée dans un bocal, sans y mettre la moindre mouche, sans y faire le moindre trou. Je rentre chez moi, et voilà l'autre gros bœuf qui se pointe à nouveau dans mon salon, pendant mon absence. Cette fois, monsieur Rotrou, je ne suis pas du tout, mais alors pas du tout d'humeur à avoir peur. Sortez de vos ruminations. Regardez-moi. Vous vous souvenez de moi? Vous me remettez? Un, deux... L'exomile que je fais fondre sous ma langue pour ne plus vous voir ni vous entendre. 3, 4, pour pouvoir vous écraser comme une merde sur mon bureau, tellement vous rapetissez. 5, 6, pour pouvoir m'endormir devant la télé sans penser au lendemain. Les premiers mois, vous êtes gentils avec moi. Tous les matins, je trouve des cadeaux sur mon bureau. Vous m'offrez des crayons publicitaires, des sacs publicitaires, des casquettes publicitaires, des chocolats publicitaires, des t-shirts publicitaires, des porte-clés publicitaires, des couettes publicitaires, des agendas publicitaires. Vous m'offrez même un livre sur le sel. J'en ai les larmes aux yeux quand j'en parle à Joël.
Porc, connard. Mon regard bien enfoncé dans ma chair et mes os soulève des tonnes. Mon regard bien enfoncé dans ma chair et mes os vous propulse à 1000 lieues de mon présent. Mon regard bien enfoncé dans ma chair et mes os vous maintient au plafond. Vos jambes pendouillent. Mon bureau. Vous vous souvenez de mon bureau? Je suis obligée d'ouvrir tous les tiroirs pour vous empêcher de toucher une parcelle de mon corps. Avec vos mains engourdies ou votre ventre ramollo chaque fois que vous passez derrière moi. Bœuf, connard.
Mon regard herculéen vous maintient toujours au plafond. D'en haut, vous voyez mon visage, mes épaules et mes pieds écrabouillés sur le même plan, et de chaque côté, mes mains effectuaient des petits gestes rapides et précis. D'en haut, vous me prenez facilement pour une mouche à me voir m'agiter entre la table, la bibliothèque et la vieille télé. Oui, je suis une mouche. Je suis une mouche encore plus pénible que celle qu'il y a dans les yeux des bœufs. Je ponds des œufs dans la pourriture de votre être, mais je ne bourdonne pas. Mes phrases partent de mon ventre et viennent énergiquement vous piquer les pieds. Elles sont claires, courtes et fréquentes.
Être dans la même pièce que moi est une situation que je ne souhaite à personne d'autre.
Coq, connard.
Les dernières années, vous êtes très méchant. Tous les matins, je retrouve des post-it sur mon bureau.
Où est le dossier Alguvie ?
Manque une facture ici. Interdiction d'allumer le chauffage, sinon les plombs sautent. Si vous n'êtes pas capable de changer un interrupteur, vous n'avez qu'à pisser dans le noir.
Vous avez arrêté de fumer. Vous recommencerez.
Et puis des...
Toutes des fainéantes. Incapables de se souvenir de rien. Ça se croit supérieur avec leur ordinateur. Mais quand il s'agit de trouver un prix, ça met 3 heures.
En guise de merci ou de s'il vous plaît. Un matin, j'arrive au boulot et je lis ce post-it.
Avec l'erreur que vous venez de faire, il n'y aura pas assez de la ferme de Joël pour tout rembourser.
Je me lève. Un torrent de larmes se déverse sur mes joues. Je renverse la poubelle de post-it dans mon grand sac. Je m'enferme dans la caisse. J'avale une plaquette de Lexomil sans une goutte d'eau. C'est pâteux. Dégueulasse. J'ai encore le goût dans la bouche. Je démarre la caisse et je roule. Quand je me rends compte que je peux tuer quelqu'un, j'ouvre les 2 vitres avant pour me réveiller et j'appelle Joël qui me dit de me garer sur le bord de la route. Ce que je fais. Et puis plus rien. Je m'évapore dans le paysage d'arbres, de fils électriques et de champs. Le lendemain, je me réveille à l'hôpital psychiatrique de Plouguernevel.
Voilà 3 mois que je suis rentrée à la maison. Mais le voyage n'est pas terminé.
Porc, bœuf, coq, connard. Si seulement je pouvais vous écrabouiller de ma vie.
Où allez-vous ?
Vous ne vous échapperez pas comme ça. Je vais vous débiter de la tête aux pieds comme un gros bœuf.
Où êtes-vous ?
Il y a un bœuf énorme dans notre terrain de jeu. Il n'est pas bouclé. Il n'est pas comme les autres. On a vu un chat rentrer dans son cul. Et même pas une minute après, un tigre énorme en est ressorti qui s'est enfui dans le bois. Paul a approché la roue de son vélo et le vélo s'est fait happer. Même pas 2 minutes après, il en est ressorti un scooter super stylé. J'ai balancé mon vieux ballon de foot dedans. Et c'en est un comme celui de la prochaine Coupe du Monde que son cul a recraché. Pire qu'une tirelire. On pourrait mettre toute la ferme de papa dedans. Paul a mis son tracteur pourri et il en est ressorti un tout neuf. T'as pas des trucs à mettre dedans ? Toi qui voulais te débarrasser de tes vieux meubles, c'est le moment. Moi, je prends la vieille télé pour la mettre dans son cul et avoir un écran plat ou un home cinéma.
Cléo, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Tu pourrais dire bonsoir. Reviens ici tout de suite !
Je rejoins Paul et Cléo dans le terrain de jeu. Je ne vois rien que de la nuit, des ombres, des étoiles et les reflets de la vieille télé qui avance entre les bras de Cléo. Peu à peu, je devine une silhouette blanche qui se déplace mollement. Ce ne peut être que lui, mon gros bœuf d'ancien patron descendu du salon. Il n'a pas d'os. Il dégouline dans la nuit flasque. Son pantalon est tombé sur ses cuisses. Je devine ses grosses fesses bleues, blanches et roses, comme si la lune était descendue là. Les bruits de rebonds infinis de ballons, de roues qui tournent dans le vide, et de ronronnements à la lune que son estomac émet prouvent bien qu'il y a à l'intérieur un chat, un ballon et un vélo.
Reculez les enfants, cette bête est très dangereuse.
Je prends la vieille télé des mains de Cléo, je l'approche des grosses fesses bleues, blanches et roses. La télé se fait aspirer. Plus de télé.
Vous aussi, faites comme Bernadette. Débarrassez-vous de vos vieilles télés. Remettez vos salons dans l'air du temps. Fini les vieilleries. Tapissez vos salons d'écran plat et de home cinéma.
Paul et Cléo se sont mis torse nu. Ils n'en finissent pas d'enfourner leurs jouets, leurs livres, leurs films, leurs vêtements et leurs économies. Ils transpirent au cul de Monsieur Rotrou, exactement comme j'ai fait pendant 8 ans pour toucher mon salaire de chaque mois.
Félicitations, Bernadette. vos enfants sont modernes. Faites comme Bernadette. Encouragez vos enfants à vivre dans l'air du temps.
Je voudrais tant lui faire mal. J'en suis incapable. Ma nuque comme prise dans la gueule d'un chien, aux mâchoires aussi puissantes que celles de Rumex. Je n'ose plus faire un geste. Il me regarde. Ses yeux se perdent dans son visage. J'émets un cri qui s'émiette aussitôt entre les petites dents serrées de son sourire herbivore. Je voudrais tellement que tout s'arrête pour lui.
Maman, tu gâches nos avenirs. On ne veut pas devenir comme toi. On ne veut pas passer nos jours enfermés dans une cuisine. On veut bosser. On veut gagner plein d'argent. On veut être riche. On veut pouvoir tout acheter. Comme Monsieur Rotrou. Le capitalisme, c'est bien.
Maman, Cléo va m'aider. On va te mettre dedans. Tu vas voir. Tu ne seras plus la plouque que tu es. Tu vas devenir moderne. Tu seras femme d'affaires. Tu seras la plus moderne des mamans. Papa, viens nous aider.
C'est ça que vous attendez de votre petite mère? Qu'elle rentre dans le cul de Monsieur Rotrou pour ressortir moderne? Qu'elle entre en pompier volontaire et qu'elle ressorte en femme d'affaires? Tout ça pour que vous ayez peut-être une chance d'atteindre le sommet de la classe moyenne? Ça ne servirait à rien. Continuez à construire vos cabanes dans les arbres, va. C'est peut-être la seule chose que vous ne regretterez pas. C'est moi qui vous le dis. Rumex. Rumex. Attaque, mon chien. Conduis ce gros bœuf au laboratoire de transformation. Vas-y, mon chien. On va voir ce que ce gros bœuf a dans le ventre.
Ah ! Nous deux. Pourriture, vois. Ma belle dentition. Fais comme elle dit. Et...
Joël ! Joël ! Viens m'aider à mettre ce bœuf au crochet. Paul, Cléo, rentrez les enfants. Allez dire bonsoir aux invités et éteignez sous les patates. Joël ! Aide-moi à mettre ce bœuf au crochet !
Bernadette, qu'est-ce que tu fais avec cette bête ? C'est le veau que je viens de vêler. Arrête de le pousser comme ça, son anus se dilate. Bernadette, il va t'avaler. Paul, Cléo, faites ce qu'a dit votre mère. Allez dire bonsoir aux patates et éteignez sous les invités. Bernadette, accroche-toi.
En femme d'affaires ou en bonne à tout faire, je te sortirai de là.
Je vais chercher la veilleuse.
Non, Joël, pas la veilleuse. Je ne sortirai pas de là avant de lui avoir explosé les entrailles à illusion.
Je plonge dans le cul de Monsieur Rotrou comme on plonge la motte d'une plante dans un seau d'eau avant de la mettre en terre. Ça sent le gaz et l'eau de Cologne. C'est immense. Vous pourriez tous y entrer. On pourrait tous s'y tenir debout.
Faites comme Bernadette.
C'est extensible à souhait. Toujours le même couloir. Les mêmes décors. Les mêmes publicités. Les mêmes parois noircies et sanguinolentes.
Faites comme Bernadette.
On pourrait marcher des kilomètres et des kilomètres là-dedans sans se perdre. Le trou de balle comme seule source de lumière et unique repère géographique.
Débarrassez-vous de vos vieilles télé. Remettez vos salons dans l'air du temps.
Ici, une batterie de petits cœurs battants pendouille. À la manière d'un chat, je les attrape entre mes griffes et je les déchiquette un à un. Monsieur Rotrou se cabre, et plus il se cabre, plus il me laisse voir les tendons qui le structurent. Je lui arrache les tendons un par un, à coups de dents. Il se cabre de plus belle, et plus il se cabre, plus je vois ses contours, ses limites. Je ne sortirai pas de là avant de lui avoir fait la peau. Accroche-toi, Bernadette. Accroche-toi à toi, à tes souvenirs, à ce qui fait de toi quelqu'un qui n'est pas les autres. Laisse tes gestes aller tout droit vers le chaos. Tue ce monstre qui veut t'économiser, te catégoriser, te numéroter, te numériser, te miniaturiser, te formater, te mater, te moraliser, te démoraliser, te diriger, diriger tes désirs. Quitte le périmètre de ton quotidien, arrache le décor de ta vie, prends tes mains et sors-toi par la gueule. Jette-toi dans le vaste monde.
Bonsoir. Je m'appelle Paul.
Mon petit frère s'appelle Cléo. Mais il est plus grand et plus costaud que moi. Il s'est caché dans le bois, en face du laboratoire de transformation. Cléo aime bien se cacher pour regarder nos parents. Moi, ça m'intéresse pas. J'ai 13 ans. Et je m'en fiche des écrans plats. Autant que des cabanes. Alors que ma mère veut tuer le capitalisme et que mon père veut sauver les meubles, j'essaye de me projeter dans le futur. Et je vois bien que si ma mère arrive à tuer le capitalisme, ça sera pas du tout pareil que si mon père sauve les meubles. Si ma mère tue le capitalisme, mon avenir promet d'être bien mouvementé. Et si mon père sauve les meubles, je pourrai continuer à vivre pépère. Car il faut le dire, je suis née dans une famille qui me permettra sans doute d'étudier encore plusieurs années pour obtenir un job pépère qui paye pas trop mal. Mais je ne suis pas tellement sûre d'avoir envie de vivre pépère. Ma vie pépère, je l'ai maintenant et je ne vis rien de très excitant. Ça ne va pas ensemble, pépère et excitant. Peut-être que quand je vais tomber amoureux, ce sera autre chose. Je crois que les filles mettent pas mal de désordre dans les choses et interdisent toute pépéritude. Peut-être que ça serait bien de vivre dans un désordre constant. Ça égaillerait sans doute les journaux et tout ce qui s'ensuit. Les journaux, il n'y a rien de plus barbant. En fait, je suis plutôt de l'avis de ma mère. Tout à l'heure, avec Cléo, c'était marrant 5 minutes d'échanger nos vieux machins contre des trucs plus modernes, mais seulement 5 minutes. Il y a un côté rébarbatif dans le capitalisme, qui ne me plaît pas beaucoup. Tiens, la voilà, avec une peau de bœuf sur le dos. Mon père a préféré laisser ma mère tuer le capitalisme plutôt que de sauver les meubles. J'en aurais sûrement fait autant. Ça promet du changement. Ils n'en reviendront pas quand je leur raconterai ça au collège. Au début, ils n'y croiront pas. Mais on s'habitue plus vite qu'on ne pense au changement. Aussi radicaux puissent-ils être.
Il ne bouge plus.
Je crois que c'en est fait de Monsieur Rotrou. Par contre, je n'ai que des patates à vous offrir pour accompagner ma victoire. Je vous déconseille fortement de manger cette viande. Cette viande-là, même Rumex n'en voudra pas.
Les patates ont toujours leur peau.
Pour ceux et celles qui n'aiment pas la peau, je veux bien les éplucher avant de vous servir. Je n'aime pas du tout les éplucher crus, mais ça ne me dérange pas de les éplucher cuites. Je suis assez douée pour éplucher les patates une fois qu'elles sont cuites. Je sais enlever la totalité de la peau d'une patate cuite en deux coups, sans laisser d'autres traces que les quatre doigts de la fourchette.
N'hésitez pas à me demander.
N'hésitez pas à me demander.
N'hésitez pas à me demander. Vous n'avez peut-être pas envie de manger des patates avec moi.
Je ne forcerai jamais quiconque à manger des patates en ma compagnie.
Ceux et celles qui veulent partir maintenant, allez-y.
Les autres peuvent se servir.
C'est la première fois que je rate des patates à l'eau.
J'ai honte.
Mon visage se défait comme les patates trop cuites.
Mon front se divise,
mes joues se fendillent.
Mon nez se décroche, mon menton se barre, ma bouche tombe.
Je n'arrive pas à le recomposer.
Et en même temps, j'essaie de ne pas perdre la face.
À mon tour, je me sers.
À mon tour, je me sers.
Nous mangeons ensemble les patates.
Cette fois, je suis avec vous. Décomposée.
Décomposée, mais avec vous.
Je mange avec vous.
Je fais enfin partie d'un ensemble, même décomposé.
D'un nous, même décomposé. et Pataton bon goût.
Ça bouge en moi.
Il y a une vague en moi qui n'en finit pas de monter. Je décide désormais d'y abandonner mes gestes.
Je ne quitterai plus mon équipement de pompier. Je le garderai toujours sur moi. Je me doucherai avec, je mangerai avec, je pisserai dedans jusqu'à ce que la greffe prenne.
Je vais sortir de ma cuisine. Sortir de mon couloir sombre en L. Sortir de ma maison. Je vais faire route avec vous.
Dormir dans vos lits.
Manger à votre table.
Je vais reconstruire un monde avec vous, au-delà des limites du raisonnable.
Paysage intérieur brut de Marie Dilasser. Enregistré à l'École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre en novembre 2017. Avec les élèves comédiens
Louison, Alix,
Eva Blanchard,
Hugo Boulanger,
Cédric Daniello,
Zachary Ferron,
Maxime Grimardias,
Kenza Lala,
Lauriane Mitchell,
Louise Morin,
Rémi Salvador
et Adrien Zumthor.
Création sonore par les élèves concepteurs son de la 77e promotion de l'ENSAT. Manon Amor, Charlotte Bozzi, Théo Cardozo, Colombine Jacquemont, Danae Le Guénic et Camille Vité.
Sous la direction de Guillaume Vezin.
Conseiller littéraire Guillaume Poix. Prise de son, montage, mixage, Benjamin Perru, Bastien Varigaud. Assistante à la réalisation, Léa Racine. Réalisation Sophie-Aude Picon. Paysage intérieur brut de Marie Dilasser est publié aux éditions Quartet.